49.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 1er décembre. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, bientôt le dénouement à droite, le coup d'envoi dans une heure du vote des adhérents Les Républicains pour choisir leur candidat à la présidentielle après un ultime débat donc hier soir. On voit ça en détail Anaïs après les autres titres.
Vacciné à tour de bras pour prendre le virus de vitesse, sur le terrain la logistique a parfois du mal à suivre. Mieux indemniser les agriculteurs en cas de gel ou de sécheresse, le gouvernement présente ce matin la réforme de l'assurance récolte. Dans ce journal, reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux en Afghanistan, dans une famille de 6 femmes condamnées à vivre recluses. Et puis le début ce soir des Transmusicales de Rennes, le festival se tient malgré les risques de Covid.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa, oui vous.
Quel passage d'antenne, je tremble. Eh bien écoutez, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, désormais candidat, quel est son espace? Va-t-il les rallier ou ira-t-il jusqu'au bout? Le candidat de Debout la France pour la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, est notre invité.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour un débat dans le Grand Entretien. Quel est l'état économique de la France? On posera la question à Daniel Cohen et Nicolas Bavrez. Participez à ce débat, bien entendu. Intervenez dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Fini de parler, cette fois les Républicains entrent dans le dur. Dans une heure, début du Congrès, après une campagne tambour battant. À 8h, débute donc le vote des 139 000 adhérents à jour de cotisation. Premier tour jusqu'à demain, 14h, second tour vendredi. Scrutin électronique, mais aussi sur place dans la majorité des fédérations. Les candidats, les Républicains, se sont affrontés lors d'un dernier débat hier soir sur France 2 et France Inter. Anne Souhaitement.
En campagne à droite toute depuis des semaines, Éric Ciotti a joué une autre partition hier soir. Objectif présidentialisation, travaux pratiques, la crise sanitaire.
Vous le savez, je suis un opposant résolu à ce pouvoir, mais ce sujet, je crois qu'il doit nous inviter à l'humilité. Je suis convaincu que ceux qui sont en responsabilité font de leur mieux.
Changement de braquet également du côté de Michel Barnier. Plus offensif, il s'en prend notamment à Valérie Pécresse et sa volonté de baisser les cotisations sociales pour augmenter les salaires.
Quant à la proposition de Valérie Pécresse, j'ai essayé de la comprendre objectivement et je vois un problème parce qu'il y a déjà quelqu'un, Valérie, qui a eu cette idée avant toi, c'est François Hollande.
Même pas mal, Valérie Pécresse répond du tac au tac, sa marque de fabrique, un programme précis.
En fait, je transforme les cotisations salariales en cotisations patronales et ensuite je fais comme a fait François Fillon, je fais un allègement de cotisations patronales.
Patte François Fillon chez Xavier Bertrand, toujours la même patte sociale. Contrairement à ses quatre concurrents, lui veut repousser l'âge de la retraite à 64 ans, pas 65.
Il 64 ans à la fin de cette décennie en 2030.
Et après?
Et après, en fonction de l'augmentation de l'espérance de vie.
Mais Michel
Sauf
Barnier...
pour ceux qui sont usés par le travail.
Petit poussé de la compétition, le médecin Philippe Juvin a haussé le ton d'entrée, s'en prenant vertement à la gestion de la crise sanitaire par l'exécutif.
Et on connaîtra donc le candidat LR à la présidentielle samedi à 14h30. L'espace médiatique occupé dans le même temps par Éric Zemmour. Première interview en tant que candidat hier soir au JT de TF1. L'ex-journaliste exaspéré par les questions posées par son interview. Gilles Boulot, on y revient à 8h.
Il est 7h04, Anaïs, les hôpitaux assistent à nouveau à un afflux de malades du Covid.
La barre des 10 000 patients hospitalisés a été franchie pour la première fois depuis septembre. Alors contre cette vague, il faut le rappel vaccinal, dit le gouvernement. 18 millions de Français ne l'ont pas encore reçu, mais l'intendance ne suit pas toujours et pas partout. Exemple à Lyon, Mathilde Imberti.
Encore un peu de patience avant la montée en puissance dont parlent les autorités. Le vaccinodrome de Lyon-Gerland accélère le rythme lundi avec 2000 injections jour, 6 jours sur 7. Ce qui créera peut-être un appel d'air sur les plateformes de prise de rendez-vous, car en ce moment elles ont bien du mal à répondre à l'afflux de demandes de troisième dose.
J'ai cherché avec les différents sites disponibles, j'ai cherché partout, je trouve pas.
Brigitte ressort bredouille d'une pharmacie en centre-ville, pas de rendez-vous à bref délai.
Je vais absolument aller voir ma fille qui habite aux États-Unis. J'ai mon billet d'avion pour le 9 décembre. Je n'y arrive pas, ou alors c'est moi qui m'y prends mal. Mais
ce n'est pas un problème d'approvisionnement, assure l'Agence régionale de santé. Alors de quoi? D'organisation, avance Olivier Henrès, grande pharmacie du QC à Villeurbanne.
On a eu des problèmes de recrutement pour arriver à monter en puissance. Puis maintenant qu'on est arrivé à trouver des étudiants, des pharmaciens qui sont revenus prendre un petit peu du collier. On vaccine en moyenne 50 à 70 doses par jour, mais on ouvre les créneaux au fur et à mesure.
Le virus pendant ce temps se propage, 15% de tests positifs dans cette pharmacie de Villeurbanne. Le taux d'incidence est remonté à 420 pour 100 000 habitants dans le Rhône. Il a doublé en une semaine. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
L'Allemagne, elle, pourrait décider aujourd'hui de demander une preuve de vaccination pour entrer dans les commerces et pourquoi pas l'obligation vaccinale dès le mois de mars. Nous serons à Berlin à 7h30. Quant à l'obligation vaccinale des soignants en Martinique, le ministre des Outre-mer sur le ton de l'apaisement, Sébastien Lecornu, en visite à Fort-de-France, ouvert à une adaptation de cette obligation vaccinale déjà repoussée du 15 novembre au 31 décembre. Mais la situation reste plus que jamais tendue aux Antilles. Tentative d'incendie de la mairie de Basse-Terre en Guadeloupe, barrage routier en Martinique et à Saint-Martin. Eux sont surtout préoccupés par les sécheresses, le gel et les inondations. En plein chamboulement climatique, voilà une loi attendue de longue date par le monde agricole. La réforme de l'assurance récolte est présentée ce matin en Conseil des ministres. Nouveau système unique qui fusionne avec les calamités agricoles pour une meilleure indemnisation et des délais plus courts. Encore faut-il convaincre les exploitants de l'adopter. Kathleen Comte s'est rendue chez un viticulteur du Maine-et-Loire.
Voilà, là vous avez mes vignes, un hectare de cabernet, juste en limite de la ville d'Angers qui est juste derrière.
Anthony Robin, 40 ans, s'est installé à Sainte-James-sur-Loire, tout près d'Angers en 2015. Le vigneron fait du bio, il n'est pas assuré et sur 7 vendanges, il a déjà vécu 4 gelées, dont celle du printemps dernier.
Cette année, en gros, je perds à peu près 2 tiers de ma récolte à cause du gel d'avril.
Soit 13 000 bouteilles de moins et presque 50 000 euros de pertes. Il attend les aides du plan gel promis par le gouvernement et face au changement climatique, il hésite à s'assurer.
C'est un des outils qui est mis en avant par les pouvoirs publics comme étant la solution. Je ne suis pas opposé, je veux creuser le dossier. Il faut mettre les chiffres en face. Est-ce que j'aurais envie de mettre quelques milliers d'euros ou quelques centaines d'euros supplémentaires pour me provisionner d'un risque potentiel futur que je ne maîtrise pas ?
Pour encourager les agriculteurs à franchir le cap, l'État promet une meilleure indemnisation, des délais plus courts, des démarches simplifiées, mais pas d'incitation du côté des prix de l'assurance. C'est justement ce qui inquiète Anthony Robin. Il craint que des agriculteurs soient mis de côté.
Je veux pas avoir moi les moyens de m'assurer et que mon voisin n'ait pas les moyens de s'assurer et disparaisse. Je préférerais avoir un système plus collectif et plus juste.
Le gouvernement espère que 60% des viticulteurs seront assurés d'ici 2030 contre 30% actuellement.
Et le projet de loi doit être débattu en janvier pour une réforme effective espérée en 2023. Mobilisation régionale dans l'Aveyron ce matin de soutien aux salariés de l'usine SAM de Viviers, près de Decazeville. 300 emplois supprimés depuis le refus de Renault de soutenir la reprise. Mais le constructeur a promis un soutien financier aux salariés de la fonderie.
Il est 7h08, journée cruciale pour le droit à l'avortement aux États-Unis.
C'est même l'avenir du droit à l'IVG qui est en jeu. La Cour suprême pourrait profiter de l'examen d'une loi aujourd'hui pour revenir 50 ans en arrière. On en parle dans le Zoom juste après ce journal. D'autres femmes ailleurs vivent déjà un autre cauchemar. En Afghanistan, reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux, ils ont rencontré à Kaboul Farida et ses 5 filles. Elles avaient l'habitude de travailler ou d'étudier et depuis l'arrivée des talibans sont assignées à résidence. Manisa, la 3e fille de la famille, raconte son désespoir à Thibault Lefebvre.
Le premier enfant de Manisa a été conçu en République, mais il, ou plutôt elle, naîtra dans tout juste un mois dans l'émirat islamique d'Afghanistan.
Malheureusement, c'est une fille. Tout est fini pour nous.
Dans le contexte actuel, cette fillette ne pourra pas faire d'études après l'école primaire. Adia a 20 ans et un diplôme de droit en poche. C'est la petite sœur de Manisa.
Les talibans ne veulent pas que les femmes en sachent plus qu'eux sur leurs droits. Je ne peux plus envisager de devenir juge. Pourquoi je devrais perdre mon temps ?
Farida, la maman, a sollicité plusieurs ambassades pour pouvoir fuir au plus vite l'Afghanistan. Mais en attendant un hypothétique départ, elle protège comme elle le peut ses filles. Sa grande crainte, qu'un des talibans remarque l'une d'elles.
Mes filles restent à la maison et c'est leur père qui va faire les courses. Nous ne les laissons pas sortir pour éviter que les talibans ne les voient. Ils viennent des provinces, ils ne sont pas comme nous, ils ont d'autres traditions. Je ne peux pas donner ma fille à un combattant taliban. Jamais je ne ferai ça. On va essayer de quitter le pays.
Et c'est la petite dernière, Farengis, 16 ans, qui conclut dans un anglais parfait l'intervention de sa maman.
Die is better than marry with a talib.
Plutôt mourir que de me marier avec un des talibans.
Le reportage de Thibault Lefebvre et Arthur Gerbeau à Kaboul pour Inter. Journée mondiale de lutte contre le sida en ce 1er décembre. Il y a urgence à mettre en place les actions de prévention, dit l'ONU. Les dépistages ont diminué partout dans le monde à cause de la pandémie de Covid-19. La pandémie qui pose la question de la place de l'être humain dans l'écosystème. Et c'est le thème dont s'empare Cyril Dion dans son nouveau documentaire sur l'écologie. Animal, c'est son titre. Le réalisateur et militant écologiste emmène deux jeunes de 16 ans, Vipulan et Bella, aux quatre coins du monde pour mieux comprendre la sixième extinction de masse. Célia Kiré.
En 50 ans, nous avons éliminé 50% de la vie sauvage sur Terre.
Une scène résume peut-être à elle seule la force de ce film. Lorsque Vipulan et Bella débarquent chez cet éleveur de lapins, ils sont d'abord choqués et très vite, ils saisissent les enjeux.
Et comment vous en êtes arrivé à faire quelque chose comme ça ?
Au début, quand on entre, il y a un peu une forme de dégoût, de presque de colère et de haine. Et puis au fur et à mesure, on comprend qu'en fait, c'est un allié politique dans la lutte. Il gagne 350 euros par mois. Et donc on comprend que tant qu'il y aura des relations aliénantes qui subsisteront envers les humains, on ne pourra pas avoir de relations non aliénantes envers les non-humains.
Ensemble, ils ont récupéré 9000 tonnes de plastique en seulement 3 ans.
La pollution, la destruction de la forêt, la surpêche, Cyril Dion détaille les causes de la disparition des espèces sans écarter les solutions. Avec ce film, très militant, le réalisateur va directement à la source du problème.
Là, pour l'instant, le tableau de bord à la fois des États et le tableau de bord des grandes entreprises, c'est comment on continue à avoir un maximum de croissance et c'est pas comment est-ce qu'on fait en sorte pour que la vie sous toutes ses formes sur cette planète puisse continuer à exister dans 30, 40, 50 ou 60 ans. On pourrait dire que l'objectif prioritaire, c'est la santé. Si on rase trop de forêt, si on vide trop d'océans, ultimement, c'est nous qu'on met en danger.
Et au terme de ce tour du monde magnifique, le regard de Vipulan et Bella a changé. Cyril Dion espère que le spectateur partagera cette émotion intense pour n'avoir plus qu'une seule priorité, protéger le vivant.
Et Animal en salle donc ce mercredi. Ce mercredi, c'est aussi le début des Transmusicales de Rennes jusqu'à dimanche. 42e édition annulée l'année dernière, c'est dire si les Bretons se réjouissent de retrouver ce rendez-vous musical foisonnant, Mathieu Culeron.
Après une édition digitale l'année dernière avec une dizaine de groupes, les Transmusicales vont bel et bien se tenir dans leur version normale, avec une jauge à 100%. Jean-Luc Brossard, patron de l'événement, a dû revoir sa façon de faire sa programmation.
Évidemment, je n'ai pas pu faire des festivals que je fais d'habitude, donc c'était beaucoup plus, si tu veux, des liens, des disques, voilà. Donc, si tu veux, cette année, je vais en découvrir encore plus que tous les ans au Trans. C'est pratiquement complet, ouais, c'est un truc de ouf, on n'a jamais vécu ça. J'en peux plus d'attendre, mais je te jure que c'est vrai, qu'on se retrouve tous avec que ça soit beau et que les artistes soient au rendez-vous et tout.
Traditionnellement, les Transmusicales, c'est une programmation ouverte sur le monde qui sait faire aussi une grande place aux artistes bretons. Ce soir, au Théâtre National de Bretagne, les Trans accueillent Briek Guerveno qui tente d'emmener la langue bretonne vers de nouveaux territoires.
On a voulu mettre un peu, justement, les chanteurs en langue bretonne ou même le fait de parler en breton comme un repli identitaire. Et c'est tout le contraire, justement. Moi, je pense que parler qu'une langue, c'est une tare. Mais je pense qu'au contraire, le fait d'amener la langue bretonne sur d'autres terrains, c'est le permettre de la faire entendre à d'autres personnes.
Seule ombre au tableau pour ce grand retour des Transmusicales de Rennes, le groupe sud-africain Urban Village qui devait jouer ce soir a dû annuler sa venue pour cause de Covid. Même chose pour Wet Leg, sensation anglaise du moment, empêtrée dans des contraintes administratives liées au virus.
Et Briek Guerveno qu'on entend là, qui sera bien là ce soir à 21h.
Merci Anaïs Feugat. Le Zoom dans 3 minutes consacré aujourd'hui à la nouvelle bataille de l'avortement aux États-Unis.